Et bonjour tout le monde. On est présentement le 6 avril 2017. Vous êtes sur les ondes de puissance maximale. C'est JP au micro, accompagné de mon très cher fidèle et mon meilleur ami de tous les jours, Marc. Bonjour Marc, ça va bien?
Bonjour mon meilleur ami JP.
Ça sonne tellement quétaine. Qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine?
Pas écouté encore des Star Trek. J'ai pratiqué au football parce que j'ai recommencé le football américain.
Oh!
Alors, mon corps est un petit peu magané. Mais c'est ça
bon,
va bien.
Ça. Bon, c'est bon. Ben ça, la température commence à être propice à ça, fait que...
Ouais, ça, saison commence bientôt. Là. La saison commence dans un mois.
Fait quarterback, corps arrière. Ouais, ben,
à mon physique, ouais, oui, sûrement.
On va rentrer dedans. Aïe, aïe, aïe. Fait que, ben, sinon, ben, moi, de mon côté, ça a été relativement tranquille aussi. Il y a eu des grosses nouvelles qui sont sorties. Fait que je me suis, encore une fois, sacrifié mon, mon bien-être mental.
Pour pouvoir regarder ça.
Pour pouvoir regarder les réactions à certaines de ces annonces-là.
Mais tu pensais que toutes les annonces qui arrivent présentement, là, tout le monde qui chialait avant, qui n'était pas sûr qu'il allait avoir une série, il y a du concret.
Oui, mais il y en a, c'est ça. Là, c'est plus rendu de la mauvaise foi. Hein. C'est ceux qui continuent à dire que c'est plus de la mauvaise foi que d'autres choses. Ça, c'est un... Je vais peut-être avoir à faire une montée de lait par rapport à ça, mais on est quand même chanceux. Côté francophone, les gens sont vraiment juste heureux d'avoir du nouveau Star Trek. Et c'est juste que j'ai remarqué, surtout du côté américain, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments de... En anglais, on dit un entitlement, parce qu'ils sentent que c'est comme leur... comme Star Trek, c'est un don de Dieu, puis c'est à eux, puis eux autres ont...
Ouais, ils ont tout le contrôle sans l'avoir.
C'est ça, exactement. Mais sinon, j'ai fait une très belle rencontre, ben virtuelle, mais quand même. J'ai un nouvel ami sur mon Facebook, du nom de Manu Initrami. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous l'avez probablement déjà vu. Il était dans Star Trek Voyager. Il jouait le rôle de Icheb dans Star Trek Voyager. Parce que présentement, en fait, il a un projet qui est en préparation et en pré-financement. Un projet qui s'appelle The Circuit, le circuit. Donc, en fait, il s'agit d'une série d'anthologie présentant 10 histoires originales qui sont interreliées, prenant place au cours d'un même week-end de convention. On va voir. C'est un super beau projet. Personnellement, j'adore le pitch. Surtout avec le talent qu'il a réussi à recruter. On parle, en fait, de Doug Jones, qu'on connaît parce qu'il va être dans Star Trek Discovery, ou même qu'on connaissait avant parce que c'est l'homme aux mille visages. On parle de Terry Farrell, Hannah Attey. Elle, vous l'avez encore probablement vu, c'est elle qui faisait Molly, la petite Molly, dans DS9 et Next Generation. Gigi Hightley, que vous avez vu dans Farscape. Robert Beltran dans Voyager. Ethan Phillips aussi dans Voyager. Armin Shimerman, le Ferengi par excellence. Et J.G. Hertzler, que vous connaissez peut-être aussi comme Martok. Il y a aussi d'autres acteurs que je suis moins familier avec. Mais en fait, c'est un super beau projet. J'ai vraiment hâte. Moi, je vais me garder un petit 20$ pour l'encourager. Et en fait, j'encourage tout le monde à aller voir ce qui se prépare de ce côté-là. Donc, allez voir The Circuit. Et en fait, c'est avec grand plaisir qu'on va probablement l'avoir d'ici une à deux semaines, sur nos ondes. J'ai demandé à notre ami Jérôme de préparer une entrevue avec lui. Donc, on va voir ça dans les semaines qui s'en viennent. Donc, notre premier gros VIP à l'émission Parlons Trek. C'est quand même le fun. Hein, Marc?
Ben, moi, je tripe bien raide. Enfin, notre premier.
Ah oui, ben c'est ça. Ça va nous préparer, là, parce que là, après ça, on va avoir d'autres gros VIP cet été. Fait que,
bien oui.
Hein? Ben, surtout, ben là, c'est, en plus, on va voir les Leo Kuda, Drexler, puis James Colley en juin. Mais comme on a parlé la semaine dernière, il y a d'autres invités très, très intéressants qui ont tous rapport, eux autres, à la série originale, au festival Ticonderoga, qui, lui, va être à la fin août. Donc,
espérons de pouvoir pogner Nichelle Nichols.
Peut-être, ça pourrait être Nichelle Nichols ou même juste soit Barbara Luna. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui aimerait avoir une entrevue avec ou celui qui jouait en fait le lieutenant Leslie. C'est comme un acteur, ouais. Il était là comme pendant 60 épisodes. Là, fait que ça,
ben, c'est vrai qu'ils ont tout fait. Là.
Ben, sur 60 sur 79 ou 78, c'est quand même pas pire. C'est une bonne moyenne. T'sais.
Une très bonne.
Ah, donc, comme je dis, moi ça fait plaisir de plugger son projet à Manu, donc The Circuit. Sinon, ben, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, avant d'arriver au gros morceau, il y a quand même eu. C'était le 1er avril la semaine dernière. Ben, en fait, c'était samedi. Ouais, c'est la semaine dernière. Donc, il y a eu deux poissons d'avril qui ont vraiment retenu mon attention. Le premier était George Takei qui avait annoncé son intérêt à embarquer en politique. En fait, en politique active, parce qu'on sait que c'est un gars qui c'est un activiste et il avait annoncé qu'il allait prendre le siège de Devin Nunes, qui est un membre du Congrès là, qui est assez controversé ces temps-ci. Mais en fait, malheureusement, ce n'était qu'un poisson d'avril. Mais cependant, je pense honnêtement, il y aurait sa place. Là. C'est un gars qui a beaucoup de vécu, qui est très éloquent. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup à la politique américaine, mais en même temps, il n'est pas jeune. Hein?
Non, il n'est pas jeune. Puis, hey, ce serait drôle de le voir avec les conflits avec Trump. Déjà, juste voir ses tweets à chaque fois que Trump parle, c'est très drôle.
Ouais. Et sinon, ben, il y a les développeurs de Star Trek Online qui, en fait, ont refait les effets sonores du jeu avec leur bouche. Fait que, genre, mettons, t'allais en warp, t'entendais un « juit, pfiou, pfiou », ou, tu sais, les faisaient faire des « pipiou », vraiment avec la bouche. Là. Donc, c'était assez spécial comme poisson d'avril, celle-là, je dois dire.
Très spécial.
Tu peux le voir sur YouTube, il y a des gens qui ont fait des vidéos de ça. C'était marketé comme étant un upgrade, une mise à jour au niveau sonore qui allait révolutionner. Donc, c'était de bon goût. Une qui était peut-être moins de bon goût là, que j'ai vu passer, c'est quelqu'un qui, évidemment, a fait un poisson d'avril disant que Star Trek Discovery était cancellé après avoir tourné deux épisodes. Évidemment, il y a comme plein de gens qui sont tombés dans le panneau. Honnêtement, ça m'a vraiment déçu de beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que c'est? Ça arrive à chaque année. Il y a des gens qui regardent pas à date puis qui font comme bon, ben. En fait, souvent, c'est parce que ça valide. Là. Souvent, ce qui arrive, c'est que quand c'est quelque chose qui valide ce qu'ils pensent, ils vont accrocher tout de suite. Fait que c'est un peu ce qui arrive aussi avec les fameuses fake news en ligne. C'est un peu le même principe. Dès qu'il y a quelque chose. En fait, en ligne, si c'est quelque chose qui valide ce que tu penses ou ce que tu crois, c'est le moment de vérifier à deux fois les sources puis si l'article est réel.
Si en parlant encore le 2, c'est que c'est réel.
C'est ça. Et parlant de pas poisson d'avril, un qui est passé proche, c'est le premier cast. Ben, le premier de trois castings qu'on va parler aujourd'hui. Le premier est Rainn Wilson qui va incarner Harry Mudd dans Star Trek Discovery. Ben ça a été annoncé comme la veille. Ça a été annoncé le 31 mars. Il y a bien du monde qui se sont demandé est-ce que c'est pour de vrai? Mais en même temps, généralement, les compagnies n'envoient pas de communiqué de presse pour des poissons d'avril. Donc, oui, c'est vrai. On va voir Harry Mudd. On ne sait pas pour combien d'épisodes. Mais il va venir dans la série. Donc, est-ce que ça va être Harry Mudd avant qu'il soit marié à Stella? Après? Après qu'il soit sauvé d'elle? Ou pendant? On ne sait pas. Est-ce qu'on va voir ce qui va peut-être causer le fait qu'il se sauve? Ça pourrait être intéressant à voir. Mais encore là, on ne sait pas. On ne sait pas combien d'épisodes. Donc,
je suis sûr qu'il n'est pas venu pour une ou deux épisodes. Là.
On va voir.
Il doit être un petit récurrent, probablement. Là.
Ouais. On va voir. Donc, je suis curieux de voir quel genre de. Parce que, tu sais, quand ils l'ont vu dans Star Trek, dans le premier épisode de la série originale, il y avait déjà un bon casier judiciaire. Donc, il y a de quoi à faire avec ça. Là. C'était certainement pas sa première rencontre avec un vaisseau de Starfleet ou de la Fédération.
Non, t'sais. Il a l'air très connu quand même.
En fait, Rainn Wilson lui-même avait incarné un rôle qui n'était pas tout à fait dans un film de Star Trek, mais presque. On parle ici évidemment de Galaxy Quest. Il avait joué un des petits extraterrestres innocents qui avait construit le NSA Protector. Et ouais. Il est évidemment plus connu pour avoir joué Dwight dans l'adaptation américaine de The Office. Et ce qui est intéressant de Harry Mudd, c'est que c'était un des rares éléments de continuité dans la série originale. Donc, c'est vraiment un des rares éléments qui fait référence à un épisode antérieur. Parce que on se rappelle qu'à l'époque, c'était les épisodes devaient être très, très hermétiques. Donc, c'est quand même intéressant. Et évidemment, le personnage principal avait été incarné par Roger C. Carmel, qui est décédé à un âge, qui est décédé en 1988 à 54 ans. Donc, quand il a joué... il est mort assez jeune là, de problèmes cardiaques. Certains croient qu'il y avait un petit peu de problèmes de cocaïne aussi, mais...
Les langues sales, langues sales.
Ah, qu'est-ce que tu veux? Mais c'était l'époque aussi. Hein.
Ouais.
Et en fait, quelque chose qui m'a vraiment impressionné, il y avait 35 ans quand il a incarné Harry Mudd. C'est quand même... C'est, tu le regardes, tu lui donnerais comme 40-45, à peu près, tu sais, le chaud, grosse moustache, la bedaine, tu sais. Mais bon, en tout cas, ben, c'est là, ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. On a pu revoir le personnage dans la série animée de Star Trek. Mais lui, dans la série animée, la voix était faite par James Doohan, connu pour avoir joué Scotty. Et en fait, Doohan lui-même, qui est reconnu justement pour avoir fait... il a fait de la radio à l'époque, donc il est très bon pour faire des voix, donc c'est pour ça qu'il était bien apprécié de l'équipe de la série animée, parce qu'il pouvait faire
des voix là-bas. Il a quand même fait pratiquement 50-60% de toutes les voix de la série.
Ah ouais, c'est quelque chose, là. C'est un homme qui était totalement dédié. Fait que ça couvre pas mal cette nouvelle pré-poisson d'avril.
Ouais.
Et la nouvelle post-poisson d'avril. Donc, on le savait déjà. Là, on a juste comme une confirmation officielle parce que, comme on pensait, son personnage est mort dans The Walking Dead. On parle ici de Sonika Martin Green. As-tu regardé l'épisode de Walking Dead de cette semaine?
Oui, je l'ai justement écouté hier.
Bon, fait que ceux qui veulent pas de spoilers, bouchez-vous les oreilles pendant les 30 prochaines secondes.
Bah, j'ai pas vraiment le goût. Mais je m'attendais pas vraiment qu'elle meure comme ça.
Ah, ok.
Mais je suis heureux qu'elle soit morte comme ça.
Ah.
Ça a fait différent des autres morts de tous les autres personnages.
Ok. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir.
C'est exactement ça. On peut pas en dire plus, sinon ce serait le chien.
Donc, en fait, ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est qu'elle va incarner un personnage qui va s'appeler Michael Burnham. Et là, évidemment, le monde toujours à la quête de quelque chose à chialer. Donc, oui, une femme peut s'appeler Michael. Plusieurs personnes ont mentionné que oui, ça existe, premièrement.
Mais je l'ai dit justement dans les forums aussi, que ça existe. Puis ce qui me dérange aussi, est-ce qu'il se prononce vraiment Michael?
Ouais, c'est ça. Ça,
on ne sait même pas la prononciation du nom.
C'est ça. Sinon, il y a aussi, en fait, c'est que, à ce que j'ai cru comprendre, c'est que Brian Fuller a une tendance à nommer ses personnages féminins ou les personnages principaux féminins avec des noms masculins. Donc, ça va dans cette trend-là et ça montre un petit peu qu'il continue à suivre le chemin qui a été tracé par Fuller avant son départ. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, comme on disait, elle va tenir le poste de premier officier et jusqu'à pour l'instant, elle tient toujours le rang de lieutenant-commander. Donc, pas de commander complet. On a vu à quelques instances dans Star Trek un lieutenant-commandeur prendre le rôle de premier officier.
Mais ils disent aussi probablement le rôle de premier officier est narrateur.
Ouais, c'est ça, c'est le
genre personnage. De narratrice, personnage. Qui, à la place d'avoir la vision du capitaine, ça va être la vision du premier officier.
C'est ça.
Quand même intéressant, ça.
Exactement. Donc, en fait, justement, le fait qu'il y ait un lieutenant-commandeur au poste de premier officier, ça montrait que Starfleet n'a pas beaucoup d'officiers ou on est en manque d'officiers, fait qu'il faut qu'il aille chercher d'un rang un petit peu inférieur. On ne sait pas, ou c'est peut-être juste parce que c'est un vaisseau qui n'est pas au top de la flotte. Donc, des petites théories comme ça qui seraient intéressantes, qui peuvent peut-être donner des indices. Sinon, ben, en fait, c'est ça, l'annonce de Zonika par CBS a été faite moins de 24 heures après la mort de son personnage dans Walking Dead. C'est comme ils n'ont même pas attendu que le corps soit refroidi. Je pense qu'il était vraiment pressé de sortir, celle-là. Puis je peux les comprendre parce qu'il s'assoyait dessus depuis au moins 2 mois. Mais contrairement à ce que beaucoup de monde croyait, elle n'a pas quitté Walking Dead pour Star Trek, puisque sa mort avait été planifiée et tournée avant qu'elle ne soit au courant, là, qu'elle était approchée pour Star Trek. Donc, c'est juste une belle coïncidence. Puis, c'est le fun pour elle parce qu'elle a continué à avoir du travail.
De toute façon, avec l'épisode 1 où on voit la mort d'un personnage, on se doutait qu'il allait arriver quelque chose comme ça. Là.
Ouais.
On le suivait.
Ben, sinon, pour continuer dans The Walking Dead, il y a Andrew Lincoln qui joue le personnage principal dans Walking Dead qui disait dans une entrevue vraiment qui a vraiment fait l'éloge de Sonika en disant que c'est une femme gracieuse, forte et pleine de ténacité. Et il a mentionné que la présence de Sonika allait faire de l'équipage un vaisseau très heureux et dirait pas non de faire un caméo, une apparence dans Star Trek, et même s'il faudrait qu'il porte du gros make-up. Donc, ce serait le fun à. Ce serait un beau petit. Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, ce serait bien, mais. Disons qu'avec les critiques du dernier épisode 7, puis je sais qu'il y a une couple de. L'auteur de Walking Dead avait décidé de le faire genre en 30 saisons. Là.
Oh boy!
Ah ouais, c'est 30 saisons qu'il a prévu dans sa tête. On dirait que la flamme s'éteint un peu là, avec Walking ouais. Dead. Alors peut-être qu'on va les voir plus vite qu'on pense. Peut-être des personnages plus importants.
Mais Andrew Lincoln parlait surtout d'un cameo, donc une petite présence. Ouais, mais
moi, je dis qu'on va voir les autres personnages.
Ah, pourquoi pas.
Moi, j'aimerais voir Daryl Dixon en Discovery.
Pour être popé, ouais. Je sais pas, dans un Space Redneck, là.
Ouais, un Space Redneck. De toute façon, tous ces personnages sont redneck. Notre ami Norman Reedus.
Ouais. Moi, je suis sûr qu'il y aurait une manière de plugger ça. Sinon, en fait, ça, c'est pas confirmé, mais Il y a une actrice du nom de Wendy Crewson que certains connaissent peut-être parce qu'elle avait joué dans Air Force One avec Harrison Ford ou dans The Santa Claus avec Tim Allen. Donc, c'est une actrice canadienne qui a été interviewée sur le tapis rouge des Canadian Screen Awards. Elle nous mentionnait qu'elle avait été recrutée par la série pour incarner une amirale. Donc, pas plus de détails. C'est une actrice qui est quand même bien talentueuse, qui a beaucoup de bagages à son CV. Donc, c'est une bonne chose. Et c'est surtout, ben, en fait, pour ceux qui suivent la série Saving Hope, elle incarne Diana Kinney, je crois, qui est un médecin dans cette série-là. Donc, personnellement, je n'ai pas plus d'informations sur ce sujet-là, mais c'est quand même le fun de voir ce qui se passe. Sinon, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de nouvelles cette semaine. J'ai gratté autant que je peux. sinon, notre ami Ted Sullivan est retourné en Californie. Donc, son rôle de supervising producer a pris fin. Donc, parce qu'en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les auteurs, les scribes de la série se passent la torche, se passent le flambeau pour ce titre-là. Donc, en fait, ce qui nous indique que l'épisode 102, donc l'épisode 2 de la première saison, a terminé la photographie principale et que l'épisode 103 est en cours de tournage. Une chose qui nous indique ça un petit peu plus, c'est qu'il y a une photo qui a été prise encore par Ted Sullivan qui montre une salle de réunion vide où il mentionne qu'ils sont en attente des acteurs pour un table read. En fait, c'est une salle de réunion en téléconférence. Donc, lui était à Los Angeles et probablement que la salle de conférence était à Toronto. Donc, en attente des acteurs pour une lecture du script autour de la table. Et on pouvait compter à peu près 10 chaises autour de la table. Si on compte 10 chaises, si on fait un petit review du casting qu'on a présentement, on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 membres de Starfleet. Donc ça, c'est... on a le Capitaine Lorca, incarné par Jason Isaac. Michael Burnham, incarné par Sonika Martin Green. Lieutenant Saru, par Doug Jones, Lieutenant Stamets par Anthony Rapp, le cadet Tilly par Mary Wiseman, ça c'est pour le Discovery, on a 5, Captain Georgiou pour Michelle Yeoh, l'officier médical Nambu pour Malik Pancholi et l'enseigne Connor pour Sam Vartoholemos. Donc, ça compte 8. Donc, si on rajoute peut-être un siège pour le réalisateur, un autre pour le producteur. Donc, je pense qu'on a probablement un cast complet déjà d'annoncé. Ça semble être assez stable. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on n'a pas de site sécurité dans le casting.
Peut-être qu'on a pas besoin encore.
Peut-être. Mais généralement, tu as un pilote. En fait, même à cette époque-là, tu as le pilote, tu as le navigateur, tu as l'officier de sécurité. En fait, c'est vrai que dans
ces régions. C'est un poste très important, sécurité.
Oui, mais c'est vrai que dans ces régionales, tu regardes ça, puis il n'y avait pas d'officier de sécurité attitré. C'était comme des red shirts random.
Moi, j'avoue.
C'est vrai.
Peut-être qu'ils veulent respecter.
Peut-être. Ah, mon Dieu! Oh, ils veulent respecter le canon, puis. Oh mon Dieu, la série originale, mais ça se peut pas. Non, ça va être un reboot, puis ça sera. Non.
JB, t'auras pas le choix, faut que t'envoies un message sur les forums.
Aïe, aïe, aïe. Ah, ben, en fait, sinon, ben, j'ai regardé. C'est vrai. En fin de semaine, j'ai regardé le dernier épisode. En fait, le 8e épisode de Star Trek Continues. Qui, on avait mentionné qu'il était écrit par une de celles qui avait écrit The Tholian Web. Et évidemment, il s'avérait être une suite directe à cet épisode-là. Personnellement, j'ai aimé, mais j'ai pas comme trippé. Je trouve qu'il était peut-être un petit peu trop. Pas nécessairement difficile à comprendre, mais il y avait. je sais pas, il y avait des concepts qui étaient un peu douteux dans cet épisode-là. Mais autrement, il était quand même bien joué par les acteurs. Le drame était quand même bien joué. En fait, c'est l'Enterprise qui arrive en quelque part et il voit un USS Defiant. On parle ici du vaisseau qui avait disparu dans notre Tholian Web l'année avant. En fait, ce qui pour eux autres était l'année dernière. Et à l'intérieur, il retrouve un Kirk très, très âgé. Et pour ceux qui se demandent par rapport à l'épisode de Star Trek Enterprise, oui, ils ont expliqué la présence dans les deux places. Donc, ça a juste pris une petite ligne de dialogue, puis le canon dans ma tête n'avait pas de problème. mais sinon, j'avais quand même... honnêtement, j'ai quand même bien apprécié. Mais comme je te dis, c'est ce qu'on appelle, en fait, dans le jargon des épisodes de Star Trek, un bottle show. Donc, c'est un épisode lorsqu'il n'y a pas d'autres décors que le vaisseau lui-même, c'est ce qu'on appelle un bottle show. Donc, c'est généralement dans la série originale, quand il manquait de budget. Ben, OK, c'est comme, OK, bon, mais on utilise juste les décors de l'Enterprise parce qu'on n'a pas le budget pour faire rien d'autre. Fait que c'était ça. Je ne sais pas si c'était un hommage à ou c'est parce qu'il n'y avait vraiment pas de budget pour faire d'autres décors. Mais en tout cas, sinon, je vous invite à aller voir. Je sais que les anciens épisodes de Continue sont sous-titrés en français, je crois, sur YouTube. Donc, je peux croire qu'on est en mesure de croire qu'il y a des sous-titres français qui s'en viennent pour ce nouvel épisode-là aussi. Sinon, ben, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Alors que vraiment que je m'assoie et je le regarde comme il faut. En fait, j'ai trouvé une comédie musicale parodique de Star Trek, qui s'intitule Boldly Go.
OK.
Donc, ça a été filmé à Caltech, aux États-Unis, en 2016. Et en fait, on parle ici d'une... Boldly Go est une comédie musicale qui tient autant de la substance et de la comédie, une parodie basée sur l'univers de Star Trek. La Fédération des Planètes Unies rencontre un grave danger provenant d'une source inconnue. Le vaisseau Enterprise et son vaillant équipage sont envoyés pour investiguer sur le bord de la zone neutre. Donc, j'ai regardé justement, jusqu'à date, j'ai regardé un petit peu le début, c'est bien fait. Les décors sont beaux, les costumes ont de l'allure et la musique est top-notch, donc ça couvre pas mal. Parce que, comme je dis, je suis un peu déçu parce que d'habitude, je suis capable de couvrir comme un bon 45 minutes, une heure quasiment avec une nouvelle, mais cette semaine, pas grand-chose. Donc, je suis un peu bouché. Mais sinon, en fait, on va aller peut-être juste faire un petit break musical. Je vais revenir avec une BD. J'ai récemment acquéri deux BD, donc une qui est Khan, qui en fait est une suite à Star Trek, ben, en fait une suite ou un préquel à Star Trek Into Darkness. J'ai aussi acquéri le premier volume du crossover Green Lantern et Star Trek, les deux publiés par IDW. Ça a été publié, je pense, il y a une ou deux années. J'ai présentement ce que j'ai commandé, en fait, c'est ce qu'on appelle les paperbacks. Donc, c'est les quatre numéros mis dans un seul volume pour une lecture plus aisée. Donc, on va partir en musique. Je vais faire jouer la chanson de Fabien Mission, The City on the Edge of Forever, parce que, les amis, ça fait 50 ans que cet épisode légendaire a été diffusé. Ça ne rajeunit pas la franchise. Hein? Donc, cet épisode de la deuxième saison, écrit par Harlan Ellison, où, comme tout le monde le sait, Edith Keeler must die. Donc, Edith Keeler doit mourir. Donc, je vais faire jouer ce morceau et on vous revient dans quelques instants sur les ondes de puissance maximale. C'est bon. Et nous voici de retour sur les ondes de puissance maximale. C'était The City on the Edge of Forever par Five Year Mission. D'ailleurs, qui, comme ça veut dire, vont lancer leur quatrième... Enfin, sont en train d'enregistrer leur quatrième album. Donc, on se tient au courant pour la suite. Donc, c'est sûr qu'il y a un Kickstarter qui s'en vient pour justement leur quatrième album. Donc, j'ai hâte de pouvoir aussi supporter ça. Ah, donc, comme je mentionnais, j'ai dans les mains le trade paperback de Star Trek Khan. La BD, je voyais quand même... je vais essayer de pas trop te donner de détails, mais en même temps, c'est dur parce que c'est quand même juste 4 BD pour une douzaine de pages chaque. Donc, l'histoire passe très vite. En fait, la BD est comme couverte en... Il y a deux parties. En fait, les numéro 1 numéro 2 sont vraiment l'histoire de Khan. On parle dans le 20e siècle. Et contrairement à ceux qui auraient peut-être lu les livres de Greg Cox, qui avait lui-même écrit comme une trilogie de livres sur Khan. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est que dans le premier livre qui couvrait la montée au pouvoir de Khan, en fait, le premier était la montée, le deuxième étant sa chute du pouvoir, et le troisième étant sur Seti Alpha 5. En fait, lui avait choisi d'intégrer les autres éléments de voyage temporel du 20e siècle et comme de faire comme un... de patcher tout ensemble. Fait que, il a pris des éléments de Star Trek 4, donc l'aluminium transparent, puis les voyages, les trucs de Star Trek Voyager, quand ils sont revenus au 20e siècle aussi. Fait que, comme, en fait, puis c'était tout suivi avec le gars de Assignment, l'épisode de, si on se rappelle, Assignment Earth. Évidemment, je ne me rappelle plus de son nom.
je ne me rappelle pas plus.
Non, mais c'est ça. L'agent avec son chat, sa chatte Isis. Puis bon, ça suivait au travers de ça. Puis il essaie comme de patcher entre ce qui était dit du 20e siècle dans Star Trek puis le 20e siècle qu'on a connu nous autres. Dans la BD, il jette notre 20e siècle à nous autres au travers de la vitre et se concentre vraiment dans l'esprit de ce qui avait été raconté dans la série originale. Donc, je pense qu'honnêtement, ça, j'ai vraiment plus apprécié ça. Faire en sorte qu'il y avait des guerres secrètes puis que personne ne s'en s'est rendu compte. Parce que ceux qui s'en souviennent, dans l'épisode de Star Trek Voyager, c'était supposé être en plein milieu de la guerre des... ou pas loin, ou juste après la guerre eugénique. Mais comme c'était comme... il n'y avait rien qui... c'était comme d'habitude. Donc, fait qu'eux autres ont décidé d'égarer ça. Puis je pense, honnêtement, c'est peut-être pour le mieux. Parce que, comme je dis, ça respecte vraiment l'idée originale de Khan puis de ce qu'il a fait au 20e siècle. On parle ici de détonation nucléaire et de mettre des populations sous son joug et ensuite les super-humains qui se retournent contre eux. Donc, comme je dis, ça respecte vraiment cette idée-là. Et de la manière qu'ils sont repoussés, c'est vraiment encore là, c'est quelque chose qui a été... c'est quand même bien... Honnêtement, c'est bien sur une âme bactériologique. Je n'en dirai pas plus. Mais ils ont vraiment comme bien utilisé ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Les dessins sont très bien faits. Faut dire que je suis pas un excellent juge à ce niveau-là. Mais j'ai pas trop vu d'aberration. En fait, c'est peut-être juste quand c'est dans des scènes où ce que ça se passe pendant ou dans le 23e siècle, on dirait parfois qu'il a vraiment comme fait des arrêts sur image puis qu'il a comme calqué par-dessus le film. Mais en même temps, c'est pas trop... Il y a du monde qui abuse un petit peu plus de cette technique-là que d'autres. Puis là, c'est pas vraiment en abus. Puis la deuxième partie, c'est celle-là, en fait, c'est celle-là qui m'intéressait le plus parce que c'est celle-là qui vient patcher des trous dans Into Darkness. Je m'explique. On nous montre vraiment pourquoi Khan déteste l'amiral dans le film. Il nous donne vraiment une bonne raison pour laquelle, une bonne justification pour laquelle il l'haït. Et c'est pas juste parce qu'il tient ses amis dans les tubes de popsicle. Mais c'est parce qu'il a vraiment... L'amiral Marcus l'a vraiment comme utilisé comme un outil. Et il a vraiment abusé de lui. Je trouve ça plate qu'il a fallu une BD pour pouvoir me faire apprécier le film. Parce qu'on dirait que l'auteur de la BD, dans sa bonne conscience, a regardé le film puis a fait « ça fait pas de sens, ça fait pas de sens ». Puis il a vraiment réussi à... Je vais donner ça à l'auteur, justement, je vais l'enlever à ceux qui ont produit le film. L'auteur a fait une bonne job de justifier les conneries du film. Je dirais pas les conneries, mais les trucs qui faisaient pas trop de sens dans le film. Ce qu'on appelle en anglais des plot holes. J'aurais peut-être apprécié, en fait, deux sets de BD. J'aurais vraiment apprécié un set de quatre volumes. Un set de quatre numéros pour le Cannes dans le 20e siècle. Et un autre set de quatre numéros pour Cannes dans le 23e siècle. Je pense qu'il y avait comme de l'espace à en faire un petit peu plus. Mais j'ai tout de même vraiment apprécié. C'est publié chez IDW. Moi, ça me coûte à peu près comme 25$. J'ai commandé chez l'Imaginaire, mais c'est disponible sur n'importe quel libraire qui tient des BD. Il va pouvoir vous le commander.
Mais c'est-tu, JP, c'est-tu certain qu'il n'y aura pas d'autres épisodes qui vont pouvoir couvrir ce que tu veux?
Non, la manière qu'ils l'ont fait. La manière qu'ils l'ont fini.
en fait, ça laisse pas.
Ça laisse doute. Pas. En fait, premièrement, parce que le film lui-même, je pense pas qu'ils vont dégeler Cannes d'ici bientôt. Là.
Bien sûr.
Mais c'est aussi le fait que, en fait, t'as le troisième truc dans la BD, c'est qu'en fait, ça se passe un petit peu après le film où ce que t'as Khan qui se tient devant un jury et devant les juges jury. Donc, on peut être certain que... En fait, on va le revoir plus tard, mais c'est dans une BD qui compte pas vraiment. C'est celle de Green Lantern, celle que j'ai pas encore. En fait, c'est le deuxième volume de Star Trek Green Lantern. Où ce que j'ai vu qu'il était sur le cover. Mais généralement, ces crossovers-là, ils comptent pas vraiment dans la continuité des comics. C'est des one-shots. C'est ça. Donc, sinon, écoute, je peux peut-être garder le Green Lantern pour la semaine prochaine.
Pour te laisser un peu de jeu.
Ouais, peut-être aussi me trouver un expert de DC. Je suis quand même relativement familier avec l'univers de DC, mais je ne suis pas un expert non plus. Puis surtout que je sais que Green Lantern ont une mythologie qui est assez profonde parce que tu as comme. C'est quoi les sept couleurs? Attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as comme. T'as les sept bagues. Plus le blanc qui est comme l'union de tous et le noir qui est comme la mort absolue. Puis comme je te dis, je sais qu'ils ont une grosse, grosse mythologie. Fait que ce serait peut-être
moi, je connais juste le jaune et le vert.
Ouais, mais c'est ça. C'est cela. Puis Ryan Reynolds.
Ouais. Qui? Deadpool? Ouais, OK.
C'est ça. Et surtout pas le suit en CG.
Non.
Marc, tu voulais nous parler d'un certain film.
Ouais, un petit film qui est sorti fin 2016.
Oui, Passengers. Ouais,
Les Passagers.
Ouais, je l'avais vu. D'ailleurs, je l'ai vu aussi. J'ai vraiment été impressionné. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Ben moi, j'en parle simplement parce que ça fait un petit lien avec l'exploration spatiale.
Ben oui, puis avec les popsicles de Khan.
Ouais.
Ben, je vais te laisser introduire le film, puis on pourra en parler après. Là.
Ben, pour faire une petite histoire courte, c'est l'histoire du vaisseau Avalon. C'est un vaisseau qui est en direction de la planète, mais de la colonie Homestead, qui est en l'honneur de la compagnie qui a fait le vaisseau. C'est 5000 passagers qui ont payé un montant selon leur classe, soit VIP ou tout ça. Puis c'est un voyage qui se posait. Ah, c'est 120 ans, alors ils sont en hibernation. Ouais. Pour pas que j'ai problème de dire le mot. Alors, lors d'un petit problème technique du vaisseau, j'en dirai pas trop pour pas vous gâcher la fin, mais il se réveille 90 ans trop tôt.
Ouais. Alors, on voit... personnage de Chris Pratt.
C'est ça.
Tout seul.
Tout seul avec des robots. Une chance qu'il y en a un qui parle. Il est chanceux. Alors, il est tout seul. Il est seul. Il va passer un an seul. Puis, il va tomber en affection avec le personnage de Jennifer Lawrence. puis là, tout ce qui va se passer après.
Il y a un gros dilemme moral. C'est ce qu'on peut dire. C'est qu'il y a
il va avoir un gros dilemme. Alors, c'est pas mal l'histoire de... Il va la réveiller. Puis il ne lui dira pas, elle va l'apprendre, alors ils vont la disputer, mais ils sont seuls, il va falloir qu'ils sauvent le monde, le vaisseau. Alors, mais juste les effets spéciaux, là, quand ils sortent dans l'espace, là, ah, c'est débile comment c'est beau.
même juste l'architecture du vaisseau lui-même est
beau.
Est très beau, très bien faite. Il y a une rotation pour faire la gravité. C'est quand même relativement crédible à ce niveau-là.
J'ai appris que le rôle justement que Chris Pratt a normalement était prévu pour Keanu Reeves.
Ah ouais?
Ouais. Puis Reese Witherspoon était supposé de jouer le rôle de Jennifer Lawrence.
Je pense qu'ils sont mieux. Je pense qu'ils s'en sont mieux sortis avec.
Avec la chimie qu'il y a eu entre les deux, c'est bien normal. Là. Puis la scène dans la piscine aussi, là, quand il perd la gravité. Là. Hey, tu capotes.
Ah non, c'est sûr. C'est...
Ben c'est vraiment un bon film, que, évidemment encore un film qui a performé en France, au Québec, mais aux États-Unis, il a fait juste 100 millions.
Ah, juste 100 millions.
Ben, je sais que c'est beaucoup, là, mais le film n'a pas été dans les attentes. Là.
Ouais, non,
le
c'est film, sûr.
Le film a fait 30 millions, puis il s'attendait au moins 50 millions à la sortie. Là.
Mm.
Alors... Que veux-tu, ça arrive, mais c'est un bon film de science-fiction. Si vous voulez triper, voir un petit peu un film moral, là, un petit peu philosophique, qu'est-ce que vous feriez, vous, être seul?
Juste un petit peu, mais pas tant. Tu sais, c'est...
Juste le fait de partir dans le futur, savoir que la fille était supposée de faire son voyage elle, vers la colonie, faire son reportage, parce que c'est une journaliste, et retourner réendormie, genre arriver, quoi, 250 ans après sa période. Elle a fait un voyage dans le futur. Là.
C'est ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui me chicote, c'est qu'il dit dans le film qu'il n'y a pas d'équipement pour remettre les gens en hibernation.
Ouais.
OK. Mais elle est supposée être capable de revenir par après.
Ouais. Non, mais il dit ça, mais sauf que ce qu'il dit, c'est que les personnes qui sont habilitées à le faire sont tant qu'en hibernation.
Ouais, ouais.
C'est eux autres qui sont cachés dans la avec les pilotes et les scientifiques, là.
Ouais, je vais te le donner là-dessus. C'est bon.
Ouais, le film est trop récent dans ma tête, je m'en rappelle bien.
C'est correct, j'ai essayé de te boucher, t'as bien répondu. C'est bon. sinon, au niveau film, on parle de grande odyssée spatiale. Il y a le grand-père de tous les films, les odyssées spatiales, qui a eu 49 ans.
Il est 49
sorti,
ans?
Oui, sorti le 2 avril 1968.
Hey boy!
Hein? Écrit par Arthur C. Clarke et réalisé par Stanley Kubrick.
Kubrick's 2001, l'Odyssée de l'espace.
Donc, allez vous chercher votre substance votre substance fétiche.
Encore là, un homme seul qui vit avec une intelligence artificielle.
Ouais, il se ramasse seul après un bout de choses. Je pense qu'il n'y a pas besoin de coller de spoilers là-dessus. Là.
Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce film-là, vous ne méritez pas de l'écouter.
Ah, t'es méchant, man. Mais non, mais c'est ça. Donc, le film a 49 ans. Donc, c'est une bonne occasion, une bonne raison, une bonne occasion d'aller voir le film. J'avais eu l'occasion de le voir au cinéma il y a une couple d'années. Cinéplex Odéon faisait, je sais pas s'ils font encore ce qu'ils appellent les festivals numériques.
Ou ce qu'ils
il présente des vieux films ou plus ou moins vieux films au cinéma, là.
Il me semble qu'ils font des spéciaux. C'est pas ça que Dominique est allé voir avec Doctor Who?
Ouais, mais ça, ils font des spéciaux, mais là, je parlais de vraiment un festival. Okay, ça durait comme deux semaines, puis ils présentaient une tonne de films. Puis je me rappelle, justement, c'est à l'époque, je travaillais nuit, je m'étais tapé trois films dans la même journée. Oh. Je m'étais tapé 2 minutes de l'espace le matin, Orange Mécanique en après-midi.
Hey boy.
Et en soirée, je me suis tapé Battle Royale.
Ah ouais, tu t'es gâté.
Ben, surtout que les billets, c'était comme 5$ le billet. Ça coûtait plus cher de popcorn que d'autres choses. T'sais.
Me semble qu'il y a eu ça l'année passée.
Ouais, ça, je
ne me souviens plus pour quel film. Mais...
À chaque année, je pense que ça, il y a deux semaines. Là. Généralement, probablement, quand il y a moins de films à l'affiche, là, puis qu'ils ont des trous à couvrir au niveau de leur horaire. Il passe ça. Puis honnêtement, j'ai vraiment trippé parce que c'est rare qu'on a l'occasion de voir des films de même dans le format où ce que il devrait être vu.
Ouais.
Puis d'ailleurs, justement, ça c'était plus, tu sais, comme encore une couple d'années, je sais pas s'ils font ça encore, mais les mardis, ils présentaient à chaque mardi, ils présentaient des plus vieux films. Puis j'avais été voir justement Star Trek The Wrath of Khan, donc La colère de Khan. Au cinéma. Donc, c'est quand même le fun d'être capable. Donc, peut-être garder un œil sur vos horaires de cinéma. On ne sait jamais des fois. Des présentations comme ça vaut la peine. Honnêtement, là, c'est un peu pour ça que Montréal me manque aussi. Parce que, écoute, dans une couple d'années, j'ai vu là, quand il sortait Next Generation en Blu-ray. Ben, il passait souvent comme un épisode où je sais qu'il avait passé, mettons, Best of Both Worlds au cinéma. Il avait passé Encounter Farpoint, puis de fait d'autres présentations comme ça. Puis je pense, écoute, il y a 10 ans, j'avais été avec un de mes amis à Ottawa pour aller voir The Cage en format restaurant. Hey boy. C'était quand même quelque chose. C'était quelque chose, puis... Je pense que c'est le fun, ça fait des tirs au trip demain.
Mais si nos amis français pourraient nous dire si en France, quelque part, dans une salle de cinéma, ils présentent justement des films, des vieux films ou des séries Star Trek, tout court.
Ouais.
Ce serait intéressant de savoir. Vous pouvez nous écrire sur notre Facebook, Parlons Trek.
Oui, parce que... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On va se booster un peu l'ego parce que c'est quand même le fun. On a vu nos chiffres aujourd'hui. Donc, il y a quelques couches tard français qu'on tient à saluer qui composent une bonne partie de notre auditoire en direct. Donc, il est quand même très tard chez vous. Donc, allez vous coucher.
Il faut aussi dire qu'on est à un membre du 150 sur le...
Ouais, sur le Facebook. Donc, invitez vos amis, spammez-les. C'est le fun. Honnêtement, c'est le fun. Moi, j'ai vraiment du plaisir à partager ma passion avec vous à chaque semaine. N'hésitez pas à venir nous jaser. Là, donc, nous autres, ça fait plaisir d'interagir avec vous. Je suis plus actif sur Twitter présentement que sur Facebook. Et surtout... je suis plus actif en anglais, je dirais presque malheureusement. C'est juste parce que il n'y a pas beaucoup de Trekkies francophones sur Twitter. Mais si vous êtes capable de faire renverser la vapeur, moi, ça me ferait plaisir.
Il n'y a pas grand comédien non plus dans la francophonie.
Non, c'est ça. Fait que, ben, c'est surtout que Twitter, je m'en sers pour échanger avec la communauté at large, avec la grande famille de Star Trek qui, elle, interagit beaucoup en anglais. Parce que c'est sûr que ben, les producteurs, les acteurs sont tous sur Twitter. Donc, si on veut se faire remarquer puis avoir des occasions, des petites exclusivités, ben c'est par là que ça passe. Sinon, il y a Instagram, mais ça, je suis pas encore rendu là.
Oh, t'es pas rendu à te mettre tes égouts portraits?
Non.
Tu pourrais être suivi comme les Kardashians?
Non, c'est correct, je préfère les Kardashians.
Ah.
Oh, boudoum-tch. Mais sinon, ben écoute, justement, je vais en parler. J'étais pas sûr de vouloir en parler, mais on parlait de Twitter. J'ai fait un. Si vous allez voir sur le Twitter, @parlontrek, aujourd'hui, j'ai lâché un peu d'émotion. Parce que, à force de me tenir dans les forums de discussion anglophones, américains, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fans de Star Trek qui souhaitent. En fait, excuse-moi, on va. Qui souhaitent que la série ne fonctionne pas, ne réussisse pas, ne soit pas. Ne connaissent pas du succès. Simplement parce que ça ne rencontre pas leur standard ou leur. Ce qu'on appelle en anglais leur headcanon, donc la continuité qu'eux autres se sont construits dans leur tête. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent ceux qui souhaitent activement que Discovery ne réussisse pas, ce sont souvent ceux qui ont qui sont des soutiennent très ardemment Star Trek Axanar. En fait, je vais même pas les appeler Star Trek Axanar, c'est simplement Axanar. Simplement parce que j'ai vraiment le feeling que toute cette histoire de poursuite judiciaire là a créé un énorme sentiment un énorme ressentiment contre les propriétaires de la série, alors que le ressentiment devrait être dirigé vers ceux qui ont tenté d'abuser et de monétiser quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et là, il y a quelque chose, c'est que CBS et Paramount n'ont pas attaqué Axanar en justice pour la qualité de leur contenu, mais bien parce qu'ils tentaient de faire du profit avec quelque chose qui ne leur appartenait pas. C'est simple comme ça. J'ai regardé le prélude to Axanar, j'ai vraiment apprécié, c'était très bien fait, mais le moindrement qu'on s'informe au sujet de la production, on voit que tous ceux qui avaient fait en sorte que Prélude to Axanar était un bon produit, ne font plus partie de l'équipe. Et présentement, ils ont ramassé 1,4 million au total. Ils ont réussi à faire en sorte de ne pas avoir de film au complet. C'est quand même incroyable. Et il y a encore du monde qui croit qu'ils vont sortir quelque chose. Je veux dire, je vous en voudrais pas de croire qu'Axanar est un bon produit ou qu'Axanar va un jour sortir quelque chose, mais allez pas attaquer ceux qui...
Attaquer les bonnes personnes.
Ben en fait, non. Allez pas attaquer les propriétaires de la licence. Parce que peu importe ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, ce sont les propriétaires de la licence qui ont raison au bout de la ligne. C'est eux autres qui appartiennent le nom Star Trek et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec, que ça vous plaise ou non. C'est simplement ça. Et malgré tous les problèmes que Discovery a pu avoir, ben on va voir une série puis il n'y aura toujours pas d'accident. C'est mon petit point de vue à ce sujet-là.
Moi, j'espère juste que ceux qui ont fait des dons à Xanar vont pouvoir aller utiliser leur studio.
Ouais, ça, c'est si leurs studios sont encore en place. Parce que présentement, il y a aussi un groupe de fans qui est en train de regarder la possibilité de faire ce qu'on appelle en anglais une class action lawsuit, donc une poursuite groupée contre Alec Peters pour justement ses promesses et ses qui n'ont jamais été rendues. Donc, ça va être à suivre. Mais c'est ça. J'ai juste besoin d'en parler. C'est quelque chose. Mais je suis quand même content de voir que du côté francophone, ce n'est pas trop un problème. Les gens sont juste heureux d'avoir du nouveau Star Trek et se mettre sous la dent éventuellement bientôt d'ici la fin de l'année.
Ouais, ça va être le fun.
Sinon, écoute, c'est pas mal ça. Donc, ça fait une heure qu'on parle. On va se quitter en musique.
Ben, on a juste oublié de mentionner qu'hier, c'était le First Contact Day.
Ah, mon Dieu, t'as raison, Marc. Mm. Hier, c'était le First Contact Day. Donc, le 5 avril 2063.
C'est bien ça.
Ah, si, je suis bon.
Je ne sais pas à quelle heure, par contre, mais
j'ai eu une couple d'heures. Ouais.
J'étais sur des logiciels qui disaient dans combien de temps arrive le First Contact, puis personne n'avait la bonne heure. Soit ça arrivait le matin, soit le midi, soit le soir. Ben, mais si on au film, c'est le soir.
C'est ça, tu sais. En fait, j'ai une petite pensée pour ceux qui ont été au Comic-Con de Montréal. Vous avez peut-être déjà croisé Noël Hannibal. Donc, c'est une jolie Montréalaise qui, en fait, était une des Vulcaines sur le vaisseau qu'on a pu voir dans First Contact. C'est une Montréalaise et elle va souvent faire un tour au Comic-Con de Montréal. Donc, j'ai rencontré une couple de fois. Elle est très, très sympathique. Elle joue de la musique. Si j'avais l'occasion, aller lui dire bonjour. Très, très...
Mais juste
très...
comme ça, est-ce qu'on avait les noms des Vulcains?
Non, mais on n'a jamais eu de nom officiel à ce sujet-là.
J'ai toujours essayé de le chercher, j'ai jamais trouvé.
Il y a certaines personnes qui diraient que ce serait le grand-père de Sarek ou l'arrière-grand-père de Sarek. Mais je ne mettrais pas trop de foi en ça parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été mentionné à l'écran. Donc, jusqu'à temps qu'on... que peut-être que Discovery ou quelque chose d'autre d'officiel vienne revisiter ça, ça reste une information non officielle.
Parfait.
Donc, et comme j'allais dire, on va partir en musique avec une chanson un peu plus heureuse et optimiste. C'est une parodie de All About That Base et c'est All About Star Trek. All About That Borg, excuse-moi. All About That Borg.
Ouais.
Et sur ce, on vous quitte et on vous souhaite une agréable soirée. Vous êtes sur les ondes de puissance maximale et on vous dit à la semaine prochaine.
Because you know the Borg is in our space,
we're in trouble.
The Borg is in our space,
bad trouble.
The Borg is in our space,
big trouble.
The Borg is in our space,
space.
Yes, I'm the captain here. They call me Jean-Luc, and I can't shake this cube like we usually do. I've got that Borg giving me chase. But we've come through some pretty tight places. I see my ship's crew, they're working it nonstop. They know this ship can kill Worf, make it rock. Let's kick some Borg booty, let's light them up. Or they'll assimilate us from the bottom to the top. Now Starfleet, they told me don't worry about these guys.
Don't you worry, don't you worry.
They said Borg are so slow it would take 20 years to arrive.
Borgie.
I know resistance is futile and so we continue to run. Ah, but it's not so easy with hoses stuck up our bum. Because you know the Borg is in our space,
we're in trouble.
The Borg is in our space,
bad trouble.
The Borg is in our space,
big trouble.
The Borg is in our space. You know the Borg is back. Go ahead and tell those other starships that. I'm not kidding, cause when they attack, I'm here to tell you, they'll assimilate us from the bottom to the top. Now Starfleet, they told me, don't worry about these guys.
Don't you worry. Don't you worry.
They said Borg are so slow it would take 20 years to arrive.
Borgie.
No resistance is futile, and so we continue to
run.
Ah, but it's not so easy with hoses stuck up our bum. Because you know the Borg is in our space,
we're in trouble.
The Borg is in our space,
bad trouble.
The Borg is in our space,
big trouble.
The Borg is in our space, in our space.
make it so. Make it so.